Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
L'assassinat des leaders africains des indépendances, une affaire internationale. Il faut imaginer la fin des années 50 et le début des années 60 pour se rendre compte que les indépendances africaines sont venues troubler l'ordre international. 1957, l'indépendance du Ghana, qui était en Afrique subsaharienne le premier pays, la première colonie à devenir indépendante par le combat de Kwame Nkrumah. Il faut imaginer aussi que l'Afrique du Nord bouge en 1956, la nationalisation du canal de Suez, l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, et puis dès 1954, la guerre d'Algérie jusqu'en 1962. Tout cela dans un contexte où se déroule la guerre froide, l'antagonisme entre le bloc de l'Est avec l'URSS en tête et le bloc, si on peut dire, de l'Ouest avec les États-Unis en tête et la France aussi qui veut jouer son jeu. Et quelquefois, on a eu tort, me semble-t-il, d'étudier ces deux choses séparément, notamment dans les écoles. On fait la décolonisation d'un côté comme un élément parmi d'autres de la guerre froide et de l'autre côté, la guerre froide qui est une affaire de grands états, de grands personnages. Les enfants, il n'y a rien à voir, circuler. Karine Ramondi, notre invitée, a mené une démarche totalement différente. C'est pour dire que ces assassinats ne sont pas des choses fortuites, que les puissances coloniales y sont mêlées en tant qu'État, que de grandes entreprises avaient intérêt à ces morts et que par conséquent, il y a une dimension internationale. Alors Karine Ramondi, merci d'être revenue à nos micros. Par quoi faut-il commencer? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer tout de suite par l'ONU? Parce que l'ONU va être interpellée dans le cas du Congo. L'ONU a joué un rôle non négligeable dans l'indépendance du Cameroun. Et est-ce que ça n'est pas là qu'il faut commencer, peut-être aussi pour évoquer cette espèce d'échec et d'incapacité de la grande organisation internationale à se positionner sur les questions africaines?
Alors, merci de m'accueillir. Je voulais juste, oui, en effet, alors l'ONU, c'est une grande entité. En fait, déjà, ce que j'ai pu constater à travers ce que j'ai pu trouver, c'est que finalement, dans l'ONU, il y a plusieurs organismes, plusieurs organes, plus exactement, qui vont jouer des jeux relativement différents et contraires. Notamment, d'une part, on a le fameux conseil de tutelle avec les grandes puissances coloniales qui vont avoir en tête de systématiquement utiliser leur pouvoir pour surveiller, neutraliser les revendications coloniales. Et d'ailleurs, cela va aboutir à un texte tout à fait intéressant, qui est une circulaire secrète sur les relations, notamment dans un premier temps anglo-française, en mai 52. Cette coalition va être renforcée en 1957, c'est très important, avec la Belgique et le Portugal. Et cette circulaire a pour but dit clairement que les pouvoirs des puissances de tutelle et les pouvoirs coloniaux doivent se donner la main pour bloquer toute tentative d'émancipation rapide, enfin qui ne serait pas dans le tempo des puissances coloniales. Donc c'est un texte très fort qui n'est pas toujours connu ou mal connu et qui montre d'emblée comment le Conseil de tutelle s'organise et fait de la résistance finalement aux revendications d'indépendance. Ça c'est la première chose. Et de l'autre côté, on a la quatrième commission qui, elle, a pour mission de s'occuper des questions coloniales et de voir comment est-ce que finalement les indépendances ou les autonomies avancent. Et donc elle reçoit en audition des leaders des colonies, des leaders nationalistes, on va dire, enfin pour faire rapide, qui viennent auditionner, qui sont entendus et qui, évidemment, en tirent énormément de prestige et se battent d'ailleurs pour y aller, parce qu'il faut voir aussi, j'y reviendrai, énormément de bâtons leur sont mis dans les roues pour qu'ils ne puissent pas se présenter devant cette quatrième commission. Et puis vous avez aussi toutes les pétitions qui sont reçues des États en voie d'autonomie, notamment du Cameroun, par exemple, mais aussi de la Jeune République du Congo, enfin, ce qui va devenir la Jeune République du Congo. Donc, vous avez tout un tas de pétitions. Vous avez des missions de visite qui sont faites sur place. Et on voit bien comment ces missions de visite sont complètement, verrouillées avant même d'avoir fait leur travail in situ. Donc, en fait, finalement, au bout du compte, cette ONU qui représente quelque chose d'important pour les leaders, on voit bien que pour eux, c'est une vitrine, bien sûr, mais c'est aussi le seul moyen, de façon internationale, de faire entendre leurs revendications sans qu'elles soient muselées par les puissances coloniales. Ah, très vite, les leaders se rendent compte qu'en fait, toutes ces démarches sont un peu vaines. Elles offrent bien sûr une fenêtre médiatique à un moment donné qu'il faut utiliser, mais globalement, on est sur une véritable... Ce sont des leviers d'impuissance. Et les leaders qui ont fait un véritable effort pour pouvoir se rendre sur place, c'était le cas de Ruben Oumnoubé, on lui a mis des bâtons dans les roues, interdiction d'un passeport, les Français ont tout fait, notamment avec aussi l'aide du FBI pour pister Niobe une fois arrivé à New York. Enfin, il faut imaginer ce qui a été mis en place pour lutter, pour faire venir des gens qui sont dans leur bon droit. Qui sont dans leurs droits. Donc c'est assez intéressant de voir comment finalement cette ONU a failli à sa mission.
Alors il y a peut-être un mot à dire avant vous, et vous connaissez cette chercheuse, une chercheuse anglaise, Suzanne Williams, a travaillé sur la mort de Dag Hammarskjöld. Un mot sur cette mort, parce que c'est une mort de plus dans cette liste un peu macabre.
Alors oui, il se trouve que Suzanne Williams a fait un travail exceptionnel de réenquête sur la mort de Dag Hammarskjöld, qu'elle a fourni de nouvelles pièces d'archives qu'elle a trouvées fortuitement, notamment dans les archives de Q, et aussi en Afrique du Sud, qu'elle a mis à disposition ces archives et que nous avons travaillé de concert parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de liens, notamment entre les morts de Patrice Lumumba et de Dag Hammarskjöld. Et ça nous a permis, et moi ça m'a permis d'ouvrir une nouvelle, un nouveau front, je veux dire, d'études, puisque il semblerait, pour l'instant ça n'avait pas été évoqué en tant que tel, que la mort de Patrice Lumumba ait été aussi souhaitée, voulue, plus ou moins commanditée, par les autorités rhodésiennes et que les services secrets britanniques soient impliqués, même si ce n'est que marginalement, puisque ça permet aussi de découvrir une chose, cette étude et cette mise en relation de ces deux morts, c'est que en Rhodésie, le pouvoir en Rhodésie ne souhaite pas finalement la même chose que les autorités centrales britanniques. C'est-à-dire qu'on a déjà un décalage d'analyse. C'est-à-dire qu'en Rhodésie, on veut garder mainmise sur la colonie alors que le gouvernement central britannique est en train d'évoluer. Et donc cette analyse est particulièrement intéressante et stimulante. Et c'est vrai qu'en confrontant les deux morts, on s'aperçoit, alors que les deux personnes se sont côtoyées, ça a été d'ailleurs parfois très houleux entre eux, mais en tous les cas, on s'aperçoit que, quelque part, ils sont un peu unis dans la mort.
Il n'y a pas de dignité sans liberté.
Nous avons connu que notre fils poliait, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort.
The Suez Canal, never far from the news in its 87 years of history, hits the headlines like a bombshell when, without a hint of warning, Egypt's premier, Colonel Nasser, announces that his country is taking it over.
Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance, tant il est vrai que la terre ennoblit toujours l'homme qui fait lui confier ses peines.
Dimension internationale des morts et des assassinats de leaders politiques africains après l'ONU, ben, il faut dire un mot de l'Afrique aussi, puisque depuis 1956-1957, la question du passage du panafricanisme idéologique à l'unité africaine est à l'ordre du jour. Nous avons Kwame Nkrumah en particulier, mais aussi Nasser. Alors, on se rend compte que cette Afrique naissante qui commence à émerger est aussi prise de court par ces assassinats.
Oui, c'est vrai que le panafricanisme a représenté un formidable espoir. Un formidable espoir pour ses leaders, un espoir d'appui, d'entraide, un espoir, on va dire aussi, des lieux de formation et de conscientisation politique très importants. Notamment, je pense à, par exemple, Patrice Lumumba, qui ressort totalement changé de son passage à Accra, et qui va justement prendre une dimension différente en rentrant au pays. Et c'est vrai que le panafricanisme a représenté une formidable illusion. Mais très rapidement, et là encore, quand on travaille vraiment et qu'on relie des archives de façon, on va dire, avec un œil nouveau, en faisant un pas de côté, on s'aperçoit que finalement, il y a eu des connexions, évidemment, entre les leaders, mais finalement relativement peu. C'est-à-dire que, par exemple, entre les leaders que moi j'ai étudiés, il y a eu surtout des connexions entre Patrice Lumumba et Félix Moumier. C'est tout. Alors que finalement, leur projet était finalement assez commun. Enfin, il faut dire aussi que les assassinats en cascade n'ont pas favorisé, évidemment, les rencontres. Ça va de soi. Mais c'est vrai qu'on a des connexions durables. Et on a, et c'est important de le dire, la figure de Kwame Nkrumah, qui va d'une certaine façon jouer le rôle de leader du panafricanisme tel qu'il est évidemment toujours présenté, mais qui va avoir quand même une fonction très importante en tant que, quelque part, grand frère, hein, une sorte de mentor politique, notamment pour Lumumba, pour Moumier, et qui va favoriser, on va dire, la réflexion ou l'auto-réflexion des leaders. Et Kwame Nkrumah va d'ailleurs avoir du mal quelquefois à influer sur la politique que Patrice Lumumba a envie de mener. Il faut dire que on est dans un moment d'accélération intense, très fort, où quelque part les leaders dont je parle sont dans le temps de l'action. Ils sont dans le temps de l'action, ils sont malheureusement plus trop dans le temps de la réflexion, et que c'est compliqué, évidemment, on le voit bien, de mener à bien une politique quand on est comme une sorte de poisson pris dans la nasse.
Est-ce que dans ces conditions, même si ça n'a pas été une figure centrale pour vous, quelqu'un comme Frantz Fanon mériterait qu'on parle de lui, parce qu'il a écrit des choses, hein, mais dans l'action, on ne sait pas trop l'analyse, tout le monde la connaît, elle est superbe, mais dans l'action, ce n'est pas très clair, étant donné par ailleurs que lui connaissait beaucoup plus l'Algérie que l'Afrique subsaharienne.
Alors, c'est vrai que la figure de Frantz Fanon, on avait fait une journée d'études à l'EHESS il y a de cela quelques années, où j'ai fait une conférence qui m'avait valu quelques réflexions un peu vives. Mais quand on regarde, par exemple, l'action de Frantz Fanon et les relations qu'il a pu avoir avec certains leaders, et notamment avec Patrice Lumumba, qui sont présentés toujours comme deux frères d'action et de combat... Moi, ce que j'ai pu voir dans ma thèse et ce que j'ai pu travailler à l'aune des archives que j'ai pu découvrir, c'est que finalement, tous ces leaders, que ce soit Kwame Nkrumah, que ce soit Fanon, que ce soit Nasser, mais les leaders que j'ai étudiés, très vite, quand même, on retombe dans une réelle politique. C'est-à-dire que, voilà, quand, par exemple, Lumumba commence à être totalement décrédibilisé, qu'on est en août 60 et qu'il est face à des difficultés internes et externes très fortes, bon, ben, il faut quand même dire que Fanon, quelque part, le lâche. Il faut oser le dire, il faut le redire, puisque moi, qui ai pu interviewer notamment... la fille de Serge Michel, et puis aussi avoir accès à quelques archives croisées, on se rend compte qu'en fait cette solidarité qui apparaît comme importante bien sûr et efficiente ne l'est pas dans les faits, c'est-à-dire qu'en fait Lumumba est lâché, et on est aussi interpellé, et on comprend que la réelle politique l'emporte, puisque par exemple Moumier, une fois que Lumumba est révoqué début septembre, renonce à son idée de créer un gouvernement provisoire camerounais au Congo, parce qu'ils voient bien que de toute façon, c'est fini. Lumumba, c'est terminé. Donc, en fait, Lumumba est lâché, y compris par ceux qui prônent, c'est vrai, l'idéal panafricain. Mais nous sommes dans un moment de réel politique et je crois qu'il y aurait un travail très intéressant à conduire, notamment aussi sur Nasser et le rôle de Nasser dans ses relations panafricaines. Et on voit bien comment finalement Nasser aussi fait des choix entre dans la période de septembre 60, janvier 61, qui sont des choix, qui sont ses choix propres pour, évidemment, l'indépendance et la nation égyptienne.
Dans ce panorama international, terminons peut-être par les anciens États colonisateurs, parce que ils s'entendent quelquefois, mais chacun d'eux joue sa propre carte pour préserver ses intérêts et instaurer ou consolider ce qu'on va appeler le néocolonialisme. Mais est-ce que dans cette stratégie, ils ne bénéficient pas de l'adhésion de certains leaders africains eux-mêmes, hein? Prenons par exemple le cas de la France, où la France gère le dossier camerounais et centrafricain, mais aussi le dossier de toute l'Afrique occidentale et de toute l'Afrique équatoriale française.
Ah, évidemment, il est très clair que si les leaders que j'étudie ont été assassinés, c'est parce qu'ils n'ont, d'une certaine façon, pas voulu adhérer à un modèle qui consisterait donc à devenir des relais locaux de ce que souhaitaient les ex-puissances coloniales. Donc leur mort, elle est signée, dans le sens où en fait il n'y a pas de possibilité pour eux d'exister dans le nouveau monde post-indépendance et néocolonial que certaines puissances souhaitent faire pérenniser. Alors évidemment, dans ces sortes de collaborations locales et régionales, il y a deux figures qui émergent. C'est la figure d'Oufouette Boigny, en Afrique occidentale française, en ex-Afrique occidentale française, et en ex-AEF, nous avons la figure de Fulbert Oyulu. Et on voit très bien comment, en travaillant sur ces deux figures, ce sont des relais locaux qui ne vont avoir finalement de cesse que d'aller à l'encontre de ce qui pourrait finalement servir l'unité et le panafricanisme d'une certaine façon. Et notamment, il y aurait là aussi un travail biographique intéressant, me semble-t-il, quand ce sera possible, à mener sur la figure d'Oufouette Boigny. Parce que, bien sûr, il ne s'agit pas de les présenter comme de totales marionnettes qui n'ont fait qu'aller dans le sens de ce que les ex-puissances coloniales voulaient. Ils y ont trouvé leurs propres intérêts. Ils ont même manœuvré parfois de façon totalement intéressante et intelligente et habile. Il ne s'agit pas du tout de re-rentrer dans des schémas post-coloniaux, mais d'essayer de comprendre que ces figures ont énormément sapé tout le travail qui aurait pu être fait par les leaders que j'ai étudiés. Et je crois qu'en fait, on rejoint ce triptyque qui est toujours cette idée de paralyser, isoler, décrédibiliser. Et systématiquement, en fait, ces personnages, qui sont aujourd'hui des personnages évidemment intéressants à retravailler du point de vue de l'historiographie des relations internationales, pourraient n'ont eu de cesse finalement que d'agir dans le sens d'une balkanisation de l'Afrique qui leur permettait, eux, d'assurer leurs intérêts.
Merci beaucoup, Karine Ramondi. J'espère que vous reviendrez vous-même sur d'autres assassinats ou que votre thèse va donner envie à d'autres jeunes chercheurs de se lancer à leur tour dans ces assassinats, parce que après les années 60, le système a continué à la fois dans les colonies en cours de libération, l'Afrique australe, les colonies portugaises, mais aussi dans les États devenus indépendants, où l'assassinat politique est devenu l'un des modes de gouvernement et l'un des modes des résolutions des conflits. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat